France Inter.
Salut Fred, je viens d'apprendre la fin de Blockbuster à la fin de la saison. Mais comment une émission aussi bonne peut s'arrêter ? Moi, c'était vraiment l'émission Feel Good par excellence, le truc qui me foutait la banane en conduisant, la Madeleine de Proust de la radio, quoi. Quand je bossais l'été en roulant beaucoup, j'adorais écouter tes émissions, ça me faisait oublier que tous les autres étaient en vacances. J'ai dévoré chaque épisode comme un T-Rex boufferait un comptable véreux. Ouais, je viens de finir celui sur Jurassic Park, là. Enfin bon, j'ai appris qu'on pouvait te faire des suggestions, et ben moi j'en ai une. 10 années de Blockbuster supplémentaires. Allez, à l'année prochaine. Ciao.
Salut Blockbuster. Je vous appelle, je suis avec mon pote Chewbacca, qui voulait réagir à l'arrêt de l'émission. Donc, ben, je vous le passe. Oui, oui, je sais, ben, tout pareil.
Frédéric, on a un problème. C'était mon professeur Xavier, c'est toi qui m'as révélé mon super pouvoir. Écouter intelligemment de la pop culture en pédalant. Chaque matin, je deviens un super héros. Volant, chaussures en cuir, gants, lunettes, casque à visière, écouteurs à conduite au sas. Oui, bon, la sécurité. Je lance Blockbuster et bam, téléportation directe vers le boulot. Ce n'est plus un trajet, c'est une téléportation digne de Starfleet. Et là, tu veux tout arrêter? Sérieusement? Me laisser comme Peter Parker sans oncle Ben? On fait comment, nous, les super auditeurs, super héros du quotidien? Tu peux pas nous lâcher comme ça. Tu vas nous manquer. Blockbuster va nous manquer fort, très fort. J'ai envie de pleurer.
To be or not to be, not to be.
Hier soir, j'ai vu au cinéma en avant-première le Superman de James Gunn. Ça faisait 4 ans que j'attendais ce film. Alors vous connaissez ma passion pour les BD de super-héros et particulièrement pour Superman, à qui on va consacrer une série spéciale cet été dans Blockbuster. Donc autant vous dire qu'hier soir, j'ai croisé les doigts au point de plus pouvoir mettre de gants avant 2040. Ça n'est que mon humble avis, évidemment, mais James Gunn a tout simplement réalisé pour moi le Superman le plus fidèle qui soit à ce qu'il est en bande dessinée. Et c'est un fan de Christopher Reeves qui vous dit ça. C'est un Superman qui n'a pas honte de ses origines de comic book, ce qui n'est pas rien à un âge où auteurs et autrices sont souvent invisibilisés ou mal rémunérés par le système marketing en cravate d'Hollywood, qui s'enrichit sur leur créativité telle une tique sur le dos d'un chien ou un milliardaire français sur les aides publiques. James Gunn, tout comme il l'a fait sur les Gardiens de la Galaxie, a embrassé cette folie visuelle et thématique qui a toujours fait rêver les jeunes lecteurs et lectrices depuis plus de 80 ans. Navettes spatiales, monstres géants venus de l'espace, robots automates, portails métaphysiques qui ouvrent sur des univers de poche, génie du mal, mégalomaniaque, chien avec des super pouvoirs. James Gunn, qui avait déjà réussi à rendre attachant un raton laveur acariâtre et un arbre qui parle, réitère l'exploit de nous montrer que l'humanité peut s'exprimer partout dans le vivant, chez les animaux comme chez les aliens. James Gunn a aussi très bien compris que Superman et Lois existent sous une forme ou une autre depuis des décennies. Il y a eu des séries télé, des dessins animés, d'autres films qui ont déjà raconté 1000 fois l'origine de Superman et son idylle avec l'intrépide journaliste du Daily Planet. Donc il a décidé de raconter autre chose. Quelle est la place de Superman dans un paysage cinématographique où ça fait plus de 20 ans qu'on est habitué à voir des super-héros? Quelle serait notre réaction à tous si Superman avait empêché Poutine d'attaquer l'Ukraine? Si un alien empêchait des missiles de tomber sur n'importe quelle nation pointée du doigt par les médias pour avant tout protéger des populations civiles? C'est un film qui pose une question simple. Est-ce que l'optimisme et la naïveté ont encore une place dans ce monde? C'est une question que je vous invite à vous poser avec vos enfants, vos neveux ou nièces, pour qu'ils découvrent ce héros merveilleux tel qu'il a toujours été pensé depuis 1938.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
En réalité, vous êtes entré illégalement dans un pays souverain.
C'est comme ça que tu veux la jouer?
C'est pas moi qui me fais interviewer, Superman. Avez-vous consulté le président?
Non.
Si on pense que vous avez agi en tant que représentant des
États-Unis,
ça ne
ferait que poser
plus de problèmes dans le monde entier.
Et avec les meilleures intentions.
Si j'étais dans la même situation, je me poserais des questions et j'envisagerais les conséquences
de mes... Tout le pays se serait fait tuer!
Hé, mon grand, lève un peu les yeux.
Des actes.
C'est ça qui fait de toi celui que tu es.
Toi, t'as un chien.
James Gunn est désormais l'architecte de l'univers DC Comics sur grand écran. Mais rien n'aurait laissé présager que cet amateur d'humour trash ayant fait ses armes chez Lloyd Kaufman dans le fameux studio de la Troma se retrouve à la tête d'une des superproductions les plus importantes de ces dernières années pour les studios Warner. Horribilis, super, puis la trilogie des Gardiens de la Galaxie, Suicide Squad, sans oublier la série Peacemaker et la série animée Creature Commando, James Gunn a beau avoir enchaîné les projets et les budgets, il demeure quand même toujours ce réalisateur du système D qui aime avant tout faire des films avec ses potes. Pour revenir sur sa rapide ascension, je suis accompagné par Marie Casabonne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée ciné-séries, créatrice de l'émission Monster Quad dans Capture Mag, autrice du livre Dans les bureaux de The Office, L'humain derrière l'humour, aux éditions Third.
C'est ça.
Avec nous de retour, et on est ravis, Julien Dupuis, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes journaliste spécialisé dans le cinéma, critique, auteur. Vous avez notamment écrit sur Spielberg et Méliès. Et vous êtes aussi réalisateur, et on vous doit l'excellent documentaire
merci.
L'Apocalypse selon Mad Max sur Arte.
Oui, encore visible sur Arte TV, sur le YouTube de Arte.
Avec nous, de retour, évidemment, mon comparse, Arnaud Kikou Tomasini, bonjour.
Salut Frédéric.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de comicsblog.fr et co-créateur et animateur du podcast First Print.
C'est ça, ouais.
Avec nous de retour, c'est les revenants. Aurélien Vivez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes community manager et rédacteur chez Panini Comics.
Tout à fait.
Et encore un retour, Olivier Delcroix, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint au service culture du Figaro, spécialiste BD, cinéma et auteur. Vous avez notamment écrit Les super-héros au cinéma aux éditions Ebec.
Eh oui, ça m'est arrivé.
Je ne vais pas le laisser là, je le ramasserai plus tard. Je ne veux pas dévoiler ma position pour l'instant.
Bonjour, je suis étudiant et je dois faire un exposé sur les points de vente de drogue. Les rues où on peut trouver des dealers.
Vous faites un exposé sur le sujet ?
Oui.
Pourquoi vous portez une fausse barbe ?
Elle est vraie. Ce sont mes poils qui poussent sur mon visage.
Ah, bien, je pense qu'on peut chercher sur Internet de vieilles coupures de journaux.
Beaucoup de gens pensent qu'elle est fausse, mais elle est vraie. On m'a demandé de faire le Père Noël avec. Tellement ma barbe est vraie. Mais j'ai dit non, j'ai cet exposé à faire.
C'était un extrait lunaire du film tout aussi lunaire de James Gunn, Super, sorti en 2010 avec la voix de Rainn Wilson, qui joue d'ailleurs dans The Office également, et doublé par Philippe Ciboulet. Marie Casabonne, on parle de James Gunn, alors c'est un nom pour les auditeurs grand public qui dit pas grand-chose, mais d'où vient cet individu ?
Alors, c'est quelqu'un qu'on a pu suivre très très tôt. Il a commencé chez la Troma, qui est une petite boîte de prod indépendante new-yorkaise qui donne dans le film série B, voire Z. Hein, c'est des films produits avec peu d'argent, qui employaient beaucoup, entre guillemets, de stagiaires, hein, on va dire, parce que James Gunn, à l'époque, sur Roméo et Juliette, qui est donc une relecture de version Troma de Roméo et Juliette, il était scénariste et co-réalisateur non crédité avec Lloyd Kaufman, qui est un des deux cofondateurs de cette boîte, qui depuis le succès évidemment de James Gunn le crédite a posteriori, mais à l'époque vraiment il était vraiment pas mentionné. Donc il a commencé professionnellement comme ça. Avant ça, plus jeune, il faisait dès ses 12 ans à peu près, dans son adolescence, des films avec ses frères, avec ses potes. Il tournait des petits films en super 8, des films de zombies, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose, une passion qu'il a pris très très tôt. Et donc voilà, il a commencé chez Troma. Ensuite, il s'est introduit entre guillemets à Hollywood par le scénario. Il a écrit les deux Scooby-Doo début des années 2000, 2002, 2004. Il a écrit aussi le film de zombies Land of the Dead de Snyder,
oui,
qui est un remake du Romero.
D'ailleurs, aujourd'hui, il y a énormément de communautés qui les opposent parce que forcément, ils ont repris en main la destinée des super-héros d'ici. Mais voilà, il y a eu partage quand même d'expériences communes sur ce film.
Ils ont travaillé ensemble sur ce film qui est plutôt réussi pour un film de zombies, pour un remake aussi, ce qui n'est pas évident de passer évidemment après Romero. Et ensuite, il a réalisé ses premiers films, qui sont des films un peu trash, un peu méchants, vraiment irrévérencieux pour le coup. Vraiment hérité de la trauma. D'ailleurs, Lloyd Kaufman, jusqu'au Gardien de la Galaxie 1 ou 2, je ne sais plus, faisait des petites apparitions, des petits caméos dans ses films. Et donc, c'est ses deux premiers films qu'il a réalisés. Donc, c'est Slither Horribilis, oui, Horribilis en français. Et Super, donc vraiment un premier film de super-héros qui est un peu, on va dire, une version de Kick-Ass, mais qui serait vraiment à la fois réaliste, oui, et méchante, quoi, qui, oui, serait vraiment avec des scènes assez choquantes aujourd'hui.
Julien Dupuis, vous avez découvert Monsieur James Gunn à quelle occasion ?
Eh bien, je crois que c'était... En fait, on en entendait déjà parler en tant que scénariste, surtout. Hein, comme l'a dit Marie, en fait, Roméo et Juliette, le film qu'il a co-signé pour la Trauma...
Qui raconte quoi pour les auditeurs ?
C'est une relecture de Roméo et Juliette, mais à Traumaville. C'est-à-dire que Trauma, les séries Z, parce que Marie a parlé de séries V, je qualifierais plutôt ça de séries Z.
C'était vraiment
la figure emblématique pour vous situer Trauma, parce que c'est peut-être l'œuvre qui est la plus connue de Trauma, c'est Toxic Avenger.
Qui va faire un retour bientôt.
Voilà, ils font un remake, d'ailleurs, donc comme quoi ça a marqué
dans la Peter Dinklage dans le rôle du Toxic Avenger,
le rôle titre, et donc qui est déjà un film de super-héros, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, oui, hein, Toxic Avenger, c'est un mélange entre le film de vengeance et le film de super-héros. Et donc Roméo et Juliette, c'est comme le film de Trey Parker et Matt Stone, quoi, les futurs créateurs de South Park, qui ont aussi commencé à Trauma avec Cannibal the Musical. C'est-à-dire qu'il y avait quand même ça, des œuvres qui ressortaient du lot et qu'on pouvait identifier. Et ensuite, ce qui s'est passé avec James Gunn, c'est qu'il a fait un coup d'éclat, ce qui lui a permis vraiment de percer à Hollywood, c'est que je crois que c'est Scooby-Doo 2 et Dawn of the Dead, le remake de zombies de George Romero, ont été coup sur coup, à deux semaines d'intervalle, les premiers au box-office. Donc tout de suite, quand il y a un scénariste qui signe deux films aussi aux antipodes, hein, d'ailleurs, hein, en apparence en tout cas, qui sont premiers au box-office, son nom...
Oui, à Hollywood, ils disent « Oh, il a rapporté tant d'argent, voilà, c'est un gars bien ».
C'est ça. Alors après, c'est vrai que Horribilis, son premier film, et moi j'étais à Mad Movies à l'époque, donc on l'a beaucoup couvert, en fait, ce film-là, c'est vraiment le film qu'il avait identifié à l'époque. C'est aussi un ancien lecteur de Fangoria, donc oui, le Mad Movies américain, donc un magazine dédié au cinéma de genre, gore, etc. Et Horribilis, c'est une célébration de ça.
C'est un alien qui a des sexuée. Sortes de limaces qui prennent possession des gens avec des explosions de chair. Enfin, vraiment, on est dans quelque chose... c'est pas le genre de film que tu regardes juste avant de manger.
Non, c'est vrai. En même temps, c'est très drôle. Et puis, alors, ce qui est déjà étonnant, c'est qu'il y avait déjà cette espèce de famille, c'est-à-dire qu'il y avait déjà Michael Rooker,
Nathan Fillion,
Nathan Fillion, évidemment, Michael Rooker que lui il avait adoré dans un film formidable que j'invite à regarder. Bon, il faut avoir le cœur bien accroché, mais qui s'appelle Henry, portrait d'un tueur en série de John McNaughton. Oui. Donc c'est incroyable ce film. Mais Michael Rooker est un grand comédien et donc il a déjà le rôle du grand méchant en fait dans Horribilis. Ça, ce sont des figures qu'on va retrouver dans ces films ultérieurs, mais aussi des personnages qui sont peut-être moins identifiés, comme Greg Henry, que j'adore, qui joue le maire en fait dans Horribilis, qui est abject et qui était le grand méchant dans le Body Double de Brian De Palma. Voilà, pour ceux qui l'ont vu, tout ça, en fait, ce sont des gens qu'on va revoir d'une façon ou d'une autre dans les futures productions de James Gunn. Et à l'époque, c'est un vrai punk, nous on le sait pas encore, mais c'est quelqu'un qui a de multiples addictions, qui est profondément alcoolique, qui s'est beaucoup drogué en fait, et tout ça il le porte en fait, ce mal-être en lui à l'écran, et il y a ça en fait qui sous-tend aussi un film comme Horribilis.
Olivier Delcroix, pareil, votre rencontre, le premier film de James Gunn que vous avez vu?
Moi c'était Super en fait, en 2010, et j'avais adoré ce film-là, j'étais allé le voir au cinéma, et effectivement, cette idée de passer à la moulinette du film indépendant américain, le mythe du super-héros, parce qu'en fait, quelque part, c'est ça, Super raconte l'histoire d'un type assez lambda, dans une banlieue triste, qui sort avec Liv Tyler, mais qui finalement va se faire larguer, elle va devenir la nouvelle copine de Kevin Bacon, qui est un patron qui vend de la drogue, enfin d'un dealer, etc. Et lui, pour se venger, il se dit bon allez, je vais devenir un justicier, j'en ai marre. Il se fabrique son petit costume qui est un espèce de truc entre Daredevil et Batman, truc rouge.
Très ridicule. Hein.
Ah mais complètement.
Avec une clé à molette.
Avec une clé à molette, voilà, une clé anglaise. Et puis il se dit allez, je vais aller casser du méchant dans ma petite ville. Et c'est vrai qu'il se prend des roustes, c'est ridicule, c'est triste, le gars est paumé. Et en même temps, c'est une relecture du mythe que j'ai trouvé absolument remarquable. Et je me suis dit ce type
de brillant.
dédiée à Elliot Page.
Voilà, Elliot Page, effectivement. Et je me dis, voilà, ton irrévérencieux, subversion totale, et en même temps, voilà, un rythme, un tempo. J'ai été complètement sous le charme.
Arnaud Tomassini, alors, je ne sais pas faire insulte aux auditeurs de dire qu'on se connaît en dehors, et je sais aussi que vous êtes un amateur de cinéma bis alternatif depuis longtemps, donc j'imagine que James Gunn, c'est une histoire qui roule.
Oui, bah c'était avec Slicer que je l'ai découvert. Et je me demande même si c'est pas la couverture par Mad Movies qui m'a fait découvrir en fait ce film à l'époque. Donc,
Julien Dupuis.
C'est pas ce que vous avez fait il y a quelques années. Non, donc c'est par ça, parce qu'effectivement j'étais dans une période où je recherchais vraiment tout ce qui était bizarre. Enfin, j'ai toujours, voilà, à partir du moment où j'ai découvert les moyens d'accéder aux films d'horreur sans le contrôle parental, j'ai vraiment toujours recherché les trucs les plus bizarres qui étaient possibles. Et la découverte de Slicer m'avait vraiment donné cette occasion d'avoir quelque chose qui est très généreux, en fait, dans tous les aspects, que ce soit dans le body horror, dans la créature, dans effectivement le côté très viscéral et sexuel presque, sauf que bon, peut-être qu'à l'époque je le regardais pas comme ça, mais c'est un truc qui m'a tout de suite marqué, qui m'a donné envie de m'intéresser à ce réalisateur, et après j'ai fait super, effectivement, puis m'intéresser au passé de la trauma, puisque dans cette même période-là, j'ai pu découvrir des Poultrygeist, les Troméo et Juliette et le Toxic Avenger.
Le Toxic Avenger, voilà, moi aussi c'est pareil, voilà. Après on rattrape
des trucs, c'est ça, et puis Sina, c'est un nom qui reviendra peu plus tard avec le premier Gardien de la Galaxie, en disant, mais ce type, on le connaissait, et c'est pas du tout son registre habituel. Puis après, on va voir en fait que s'il y a des connexions à faire évidentes entre son passé et son présent super-héroïque.
Et Aurélien Vivès, que je sais être un grand passionné de pandas roux et de trucs très mignons.
Mais pas que. En fait, pareil que mon collègue, c'est la couverture de Mad Movies de Aurélien.
Ah, décidément,
qui me l'a fait aller voir en salle, en plus. Donc voilà, Horribilis, super, Les Gardiens de la Galaxie. Et puis, comme mes camarades aussi, aller creuser ce qui a été fait avant, les Troméo et Juliette, mais aussi des trucs comme The Specials, qui est son premier film de super-héros, en fait, il date de 2000. Quoi. Donc,
réalisé par Greg Mazin, qui était également le showrunner de Last of Us et Tchernobyl.
Et aussi le scénariste des Hangover par 2.
Oui, c'est vrai.
un drôle de CV. Mais ouais, The Specials, donc, qui date de 2000, sa première incursion, du coup, vraiment dans le super-héros, on voit qu'elle date vraiment des prémices du retour des super-héros au premier plan, quoi.
Et puis il y avait PG Porn aussi, on en a pas parlé, mais ça, c'est pas...
On va y venir. On est ensemble pour parler d'un réalisateur qui a l'amour des bonnes bandes-sons, et il l'a notamment prouvé avec sa mixtape des Gardiens de la Galaxie, sur laquelle on retrouve le cultissime Hooked on a Feeling de Blue Suede. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another. The good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Comment t'es arrivé sur cette planète ridicule?
Ego found me in the larva state.
Ego m'a trouvé à l'état de larve. J'étais orpheline dans le monde d'où je venais.
He raised me by hand and kept me as his own.
Il m'a élevé à sa manière et il m'a gardé pour lui.
So you're a pet. T'es animal de compagnie?
I suppose.
Oui, un peu.
People usually want cute pets. D'habitude, les gens veulent des animaux jolis.
Why would Ego want such a hideous one?
Pourquoi Ego en a choisi un aussi vilain?
I am hideous?
Je suis vilaine?
You are horrifying to look at.
Bien sûr, oui. Tu es affreuse quand on te regarde.
But that's a good thing.
Mais ça vaut mieux.
Oh?
When you're ugly and someone loves you, you know they love you for who you are.
Quand t'es laid, si quelqu'un te dit qu'il t'aime, c'est qu'il t'aime pour ce que tu es.
Beautiful people never know who to trust.
Les gens beaux ne peuvent se fier à personne.
Then I'm certainly grateful.
Alors j'ai beaucoup de chance, moi, d'être vilaine.
Those pools.
Ces bassins.
They remind me of a time.
Me rappelle l'époque où j'allais avec ma fille au bord des lacs perdus du monde d'où je viens.
She was like.
Elle était comme toi.
Disgusting.
Elle était vilaine.
Innocente.
C'était un extrait des Gardiens de la Galaxie volume 2, une discussion mémorable entre Dave Bautista qui joue Drax et qui est doublé par Serge Biavant et Pomme Clémentieff dans le rôle de Mantis qui se double elle-même en français parce que non seulement elle parle très bien français mais elle est française, donc ça aide un petit peu. Marie Cazabonne, si on devait résumer le style de James Gunn, parce que par exemple Tarantino, on sait que c'est l'amour du dialogue, mais qu'est-ce qui caractérise James Gunn?
Alors son style, il a quand même beaucoup évolué. C'est un peu le parcours d'un sale gosse qui est un peu rentré dans le rang aujourd'hui. C'était quelqu'un qui avait un style vraiment très frontal, très trash. Hein. Si je peux redire un mot sur Troméo et Juliette, ça finit quand même sur Troméo et Juliette qui sont un petit peu consanguins. Et voilà, donc c'est vraiment de la relecture. Il vient salir le mythe shakespearien, quoi. Et du coup, je pense que c'est vraiment ce côté, ce pas de côté qu'on... Bon, pas mal d'auteurs, de petits auteurs le faisaient, mais je pense que c'est ce côté qu'on a voulu ramener dans les Marvel et ensuite dans les DC. Et c'est vrai que ce premier Gardien de la Galaxie, qui est son entrée vraiment dans les gros films hollywoodiens, dans les blockbusters, je pense que ça a amené un petit peu un vent de fraîcheur, quelque chose de très coloré, de très pop, avec un humour. Il y a encore deux, trois petites blagues, un petit peu, voilà, que les enfants ne comprennent pas forcément et qui vont faire sourire les adultes. Mais moi, je pense vraiment qu'au fil des films, et avec Julien, on sort à l'instant du Superman, je trouve que ce truc-là, c'est vraiment perdu. Et,
oui, après, sur Superman, les black trash ou tout ça, c'était peut-être pas forcément
sûr,
l'endroit.
Bien sûr, mais on arrive sur quelque chose de beaucoup plus classique. Oui. C'est vrai que les Gardiens de la Galaxie lui permettaient aussi d'avoir, je pense, beaucoup moins d'enjeux à l'époque, en 2014, hein, avec des personnages qu'on sortait d'un tiroir qui étaient vraiment pas... qui étaient des outsiders, comme les personnages le sont dans le film, mais c'était l'outsider de Marvel. C'était un film sur lequel ils avaient moins d'enjeux parce que c'était... des personnages moins connus du grand public, moins populaires. Et je pense qu'il a pu, à l'époque, faire ce qu'il pouvait dans le cahier des charges de Marvel. Et comme, en fait, ça a été un grand succès populaire où les gens ont vu une espèce de renouveau de ces films de super-héros, je pense que c'est ça qui, évidemment, l'amène où il est aujourd'hui. Mais pour moi, aujourd'hui, le style de James Gunn, je pense que Julien sera... On ne sera pas tous d'accord autour de la table. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est complètement perdu. Et là, nous, on l'a vu dans le Superman, où il rentre vraiment dans le rang en faisant quelque chose qu'on attend de lui. Et à l'époque, je pense que sur ses films précédents, jusqu'au premier Gardien, c'était des choses qu'on n'attendait pas, en tout cas.
C'est un parcours qui ressemble un petit peu à celui d'un Peter Jackson ou même d'un Sam Raimi entre ses débuts et ce qu'il fait désormais.
Un peu différemment, c'est à moi que tu poses la question, Frédéric.
Oui.
D'accord, tu me regardes, donc ça doit être pour ça. Mais
j'ai un terrible strabisme, mais
non.
C'est très cruel de souligner.
Non, mais le truc, la différence avec Gunn, c'est que c'est quelqu'un qui, comme tout le monde, en fait, est un freak, hein, je pense, et aspiré à être aimé. années. Et la chose qu'on n'a pas dite, en fait, avant la pause musicale, c'est que Super est un énorme échec. Sliver, enfin, Horribilis ne fonctionne pas très bien au box-office, et Super, par contre, est un échec. Alors, il va se rattraper plus tard, notamment sur le marché de la vidéo et tout, mais lorsqu'il sort, c'est un gros échec. Et Gunn, il va traverser une vraie période de sombre, de grosse remise en question, où il pense arrêter tout simplement le cinéma. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, je crois que c'est autour de cette époque-là, qu'il va participer à un jeu vidéo...
Qui a eu un remake il n'y a pas longtemps.
Ouais, qui s'appelle Lollipop Chainsaw, ouais, c'est ça.
C'est une pom-pom girl qui se promène avec la tête de son mec, et qui justement aimerait bien retrouver le corps,
oui.
Et elle se bat contre des zombies.
Avec des tronçonneuses.
Voilà, une tronçonneuse, ouais. Et elle a un moment, en fait, d'euphorie, en fait, où quand elle décapite les zombies et tout, à la place du sang et de l'hémoglobine, c'est des petits cœurs,
hein, oui,
kawaii qui sortent. C'était aussi Suda...
51,
ouais, qui avait fait Killer 7, hein, qui avait fait ce jeu vidéo, donc c'est pas anodin.
Et je pense Shadow pas les of Damned.
Mais oui, voilà, donc je pense qu'il a eu une époque, en fait, comme ça, où il est passé autour d'un trauma, et puis surtout, lui, il a fait une observation, mais qui est réelle, hein, que nous, on a vu en tant qu'observateur du cinéma, c'est qu'il s'est dit, à Hollywood, aujourd'hui, il n'y a plus de films du milieu, en fait, il n'y a plus de production médium, etc. Ou alors, on fait des toutes petites productions indépendantes minuscules, ou alors, on doit aller dans les très grosses productions, mais avec, effectivement, un certain prix, en tout cas, à mes yeux, manifestement, aux yeux de Marie aussi, quoi. Et donc, lui, tout à coup, il y a eu cette offre de porter à l'écran ces personnages qui étaient vraiment des outsiders du monde de Marvel. Enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, Frédéric, mais voilà. Et donc, il a sauté sur l'occasion, il s'est complètement fondu aussi, à mon sens, dans le style Marvel. C'est-à-dire, un truc qu'on sait peut-être un peu moins de James Gunn, c'est qu'il a réalisé énormément de caméos de Stan Lee. C'est-à-dire qu'il était... Et il a encadré... plusieurs des films de Marvel qui se passaient pas bien.
Il a participé énormément à Infinity War, exactement, des frères Russo.
Donc il était complètement, en fait, en phase avec ce que Kevin Feige était en train de faire avec les adaptations Marvel. Et donc, c'est, effectivement, le premier signe, ça a été les Gardiens de la Galaxie, effectivement.
Olivier Delcroix, Arnaud, Aurélien Vivès, quel est votre avis sur le changement comme ça de style opéré par James Gunn ? Aurélien Vivès.
Je suis pas complètement sûr qu'il y ait un changement, dans le sens où il y a plus pour moi une évolution, et où il va, suivant les œuvres, mettre en valeur plus ou moins certaines facettes de ce qu'il a toujours fait. Et parce que quand on voit Creature Commando, qui est la série animée qui, du coup, est sortie l'année dernière, le côté méchant, sale gosse et trash, il est encore là. Peut-être pas au niveau de Roméo et Juliette, non, mais il y a quand même encore quelque
même
chose.
Peacemaker.
Peacemaker, mais je prenais Creature Commando parce qu'il est sorti littéralement il y a 6 mois. Mais on a encore ces aspects-là. Et même le Superman, je trouve que dans son espèce de débauche de côté Silver Age avec plein de bizarreries, on n'est pas dans quelque chose forcément de trash comme il pouvait avoir avant, mais on est dans quelque chose où. Je trouve qu'il n'est pas si fondu que ça dans le carcan hollywoodien, ou en tout cas, il le définit un peu à sa propre manière quand même.
C'est la continuité, c'est le côté weird en fait. C'est un mec qui vient du cinéma Z, qui vient des bizarreries, c'est un mec qui est bizarre et qui a continuellement en fait voulu apporter les trucs bizarres, même en se rangeant dans des cases de plus en plus mainstream. On part du principe qu'on va réussir à rendre populaire un raton laveur qui parle et un arbre parlant. Et on va continuer ensuite chez DC en mettant en place, en choisissant pour son premier film, son vrai super-héros, ce sera une étoile de mer galactique géante. On s'intéresse toujours aussi aux côtés des laissés pour compte, en fait, des parias, de ceux qui sont un peu des outsiders et qui essayent essaient d'aller chercher ce qui fait l'humanité de ces personnages-là, et même dans le Superman, en fait, on a Métamorpho, on a un Green Lantern qui est un bouffon aussi, mais qui...
On a un Kaiju qui est touchant, parce qu'en fait, on comprend
qu'il
n'est
pas méchant.
Il n'est pas méchant.
Il n'a rien demandé à personne, il cherchait à manger. On a un chien avec des super pouvoirs, et c'est vraiment ce côté-là, je vais aller chercher à chaque fois qu'est-ce qui fait la singularité de tous ces personnages et tout ce qui est weird, pour donner, en fait, parce qu'il sait, en fait, que dans le grand public, on est sûrement plein de gens à kiffer les bizarreries comme ça, et c'est un peu le...
Alors, il y a Benjamin Ducy, mon attaché de production, il dit, il faudrait peut-être expliquer Kaiju. si vous écoutez Blockbuster, ça fait 10 ans, c'est des gros monstres qui cassent des villes.
Et c'est un gros fan, hein, Gunn, hein, d'ailleurs. Je veux juste dire que l'étoile de mer, par exemple, c'est un hommage direct, en fait, à un vrai Kaiju qui a existé dans le cinéma japonais dans les années 60.
Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que, de toute façon, moi, ce que j'aime beaucoup chez James Gunn aussi, c'est qu'effectivement, il a passé sa vie à essayer de récupérer dans les marges, dans les caniveaux de la pop culture, des comic books, des personnages qui finalement étaient soit des gros marginaux, des outsiders, des anti-héros, des criminels aussi. Enfin, et puis ensuite essayer d'aller creuser toutes ces imperfections et puis les amener à chercher finalement qu'est-ce qu'il y a de bien en eux, qu'est-ce qu'il y a de héroïque en eux. Et c'est le thème qu'il adore explorer dans tous ses films, qui est le thème de la rédemption. Et là, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que dans Superman, il se heurte pour la première fois de sa carrière à un personnage qu'on lui amène dans un écrin, et ce type est parfait. Et il se dit, non, en réalité, sa kryptonite... la kryptonite de Superman, c'est quoi ? C'est qu'il est gentil. Et qu'on est dans une période où être gentil, c'est nul. Donc il s'est dit, bah voilà, j'ai tout trouvé. Bah, à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque de TikTok, où finalement être méchant, c'est formidable, être gentil, c'est de la merde. Et ben c'est ça le côté marginal de Superman, c'est qu'il est, il est terriblement bienveillant et il veut faire le
c'est
bien.
C'est ce qui est dit dans le film, c'est sa que quelque bonté. Part, c'est, ça, le fait qu'il soit gentil, ça fait de lui un nouveau punk.
Mmh. Exactement, et donc c'est ça, son côté punk rock, et en plus il est romantique. Hein, donc il a utilisé des choses qui, dans les années 50, ou même dans le Superman de Jerry Siegel et Joe Shuster, étaient quelque part dans son ADN en 38, c'est la bonté d'un personnage qui est, et la pureté, et en se disant, bah voilà, la bonté, la pureté d'un héros, c'est tellement nul dans notre époque que c'est son talon d'Achille.
C'est un loser. En fait.
C'est le loser, c'est le marginal, c'est criminel d'être... Il est devenu un outsider à cause de ça. Et donc, c'est à partir de là qu'il travaille son personnage.
Littéralement, le film commence par sa première défaite. Donc, quand tu dis que c'est un loser, c'est exactement ça, de se dire, regardez, vous pensez qu'il est parfait ? Non, on va commencer le film en le faisant, en le mettant à plat et en saignant du nez. Donc...
On est ensemble pour revenir sur la carrière éclectique de James Gunn, mais on va faire une courte pause musicale avec un retour aussi, celui de Vanessa Paradis avec Bouquet Final.
Juste retour des choses, comme une overdose, mais c'est le bouquet final, mais c'est le bouquet final. J'avoue, je les ai attendus longtemps, mais les fleurs ne parlent qu'au présent. Les regrets n'aiment pas. Tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. Sur la carte qui c'est l'encre bleue, me dis que tu n'aimes que moi. Le rouge et le rouge sang, couleur des amants, mais c'est le bouquet final.
far so good.
Blockbuster sur France Inter.
Toutes mes excuses. Recently I made a promise to myself.
Je me suis juré il n'y a pas longtemps qu'avec mon prochain petit copain, je ferais gaffe au voyant rouge et que si jamais il y en avait un qui s'allumait dans ma tête, je réagirais sainement.
And I would murder him.
En le butant sur le champ.
And killing kids.
Et des gosses qu'on assassine.
Kind of a red flag.
C'est quand même un voyant rouge.
I know what you're
saying. Je sais ce que tu dirais si tu pouvais. Tu dirais, merde, il suffisait de claquer la porte. Et moi je répondrais, pourquoi tu me hurles dessus? Je suis pas sourdingue et je suis juste à côté de toi. Et après je dirais, quand on a un goût de choc comme moi pour les mecs, on sait bien qu'à la fin,
il n'y
a aucune chance qu'ils se barrent gentiment. Non, ils te crèvent les pneus, ils tuent tes chiens. Ils te disent que la musique que t'aimes, c'est vraiment de la soupe. Bref, toute cette cruauté.
Tears you apart after a while.
Ben, ça te brise le cœur à la longue.
You were real pretty and all.
C'est sûr que t'étais mignon et tout. Et regrets éternels pour ce si magnifique monstre que tu gardais au chaud entre tes jambes, mais...
All in all,
tout compte fait,
I think you're more pretty like this.
Je te trouve encore plus mignon dans cet état. Débarrassé de toutes ces idées dégueulasses qui ont quitté ton crâne.
I can't believe this thing had a bullet.
J'aurais pas cru qu'il y avait une balle dans ce machin.
Harley Quinn au top de sa forme dans le Suicide Squad avec un « The » devant de James Gunn sorti en 2021, Margot Robbie est doublée comme toujours par Dorothée Pousseau. Marie Casabonne, on n'a pas parlé de PG Porn.
Alors moi je vais pas en parler parce que c'est je pense le seul film de sa filmo que je n'ai pas vu donc je vais.
Mais c'est tellement drôle, il faut regarder ça.
Je sais mais je l'ai raté à l'époque et voilà.
Julien Dupuis.
Alors c'est pas un film Marais. Je vais présenter à Marais du coup et aux auditeurs. Donc c'est une web-série non,
oui.
C'est ça, ça a été uniquement diffusé sur internet et donc tout le principe de PG Porn, c'est de faire des parodies des films pornographiques avec des vraies stars du cinéma porno d'ailleurs. Mais aussi des comédies. Lui joue un rôle, hein, je crois, dans un des épisodes.
James Gunn joue un garagiste, voilà, avec l'actrice Sacha Grey.
C'est ça, il y a Fillion aussi qui joue dans un des épisodes. Et donc, on reprend tous les clichés et notamment la structure narrative en fait, du film pornographique, donc qui est réduite évidemment à sa portion congrue. Mais pour finalement un résultat qui est ou alors totalement inoffensif et tellement inoffensif que ça en devient drôle, ou alors qui peut être absurde, absurde gore, absurde rigolo. Voilà. Alors, le truc marrant en fait de PG Porn, c'est que c'est aussi une de ses premières collaborations, si ce n'est sa première collaboration avec Peter Safran, avec qui il dirige aujourd'hui les studios DC.
Les studios DC Comics, donc vraiment... Et alors quand on voit ce passif, la trauma, PG Porn, comment, moi c'est cette bascule, comment un individu tel que Kevin Feige se dit... Tiens, ce réalisateur, je le vois bien réaliser Les Gardiens de la Galaxie, partant du principe que Les Gardiens de la Galaxie sont l'ouverture vers l'univers cosmique de Marvel. Jusqu'à maintenant, il y avait des super-héros très terre-à-terre, et donc c'est quand même l'introduction de Thanos. Tout l'univers tient là-dessus. Donc comment Kevin Feige se dit à ce moment-là, bah tiens, je vais me donner les clés à James Gunn, Aurélien Vives.
Alors, le fait est qu'à Hollywood, tout se sait aussi, et que peut-être que Kevin Feige a aussi entendu parler des scénarios que du coup James Gunn a fait, qui n'ont pas forcément abouti à des films, dont en 1999, un scénario de Silver Surfer. À l'époque, James Gunn a fait beaucoup plus même qu'un simple traitement, il avait fait un scénario quasi complet de Silver Surfer, avec une histoire épique où le Silver Surfer se retourne contre Galactus, etc. Donc voilà, donc on est en 99, hein, faut se remettre aussi dans le contexte.
Lui-même, Kevin Feige, est sûrement stagiaire à la Fox, et il est où il évite des sandwichs d'Amy Pascal.
C'est ça, donc c'est sans doute quelque chose dont il a déjà entendu parler à ce moment-là. Pareil, il y a eu un traitement pour un film de Plastic Man, un peu plus tard, au début des années 2000. Les incursions, en fait, de la part de James Gunn dans le domaine du super-héros, en fait, ont été nombreuses. Et certes, jusqu'ici, il a soit fait des choses bon, comme Roméo et Juliette, PG Porn, voilà, ou des films plus personnels comme Super ou Horribilis. Mais encore une fois, des choses comme The Specials, comme ces scénarios inachevés, comme le fait d'avoir réussi à faire des scénarios, comme on l'a dit, pour des blockbusters comme Dawn of the Dead ou les Scooby-Doo, montre en fait c'est un couteau suisse fan de super-héros. On fait plus mauvais profil, en effet, quand même, pour se lancer dans les Gardiens de la Galaxie. Surtout que même, en 2008, juste avant PG Porn, il essaie de lancer une autre web-série qui s'appelle Sparky et Michaela, avec l'actrice d'ailleurs qui joue Cate Grant dans Superman, qui joue une super-héroïne, Michaela donc, qui est en duo avec un raton laveur, Sparky, qui a des super pouvoirs. Donc, il était prêt pour les Gardiens de la Galaxie.
Rien de secret, rien de secret. On parle, mais on en oublierait presque l'intermède musical joliment choisi par notre programmateur Jean-Baptiste Audibert. On écoute Curtis Harding qui interprète « There She Goes ».
Blockbuster sur France Inter.
On est de retour pour parler de James Gunn et de son succès à la tête des films, de la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Mais avant ce troisième opus, il s'est passé quelque chose, Arnaud Tomassini, notamment le renvoi de James Gunn par Disney. Comment ça s'est passé ?
Oui, c'était survenu à l'été 2018 et en complète surprise, puisque normalement le projet était déjà bien engagé. C'est une très longue histoire, donc si je me permets un placement de produit, il y a un papier qui s'appelle « Affaire James Gunn, comment l'alt-right américaine a piégé Disney » sur le site comicsblog.fr. Mais grosso modo, c'est deux personnes qui s'appellent Mike Cernovich et Jack Posobiec qui sont des figures publiques de ce qu'on appelle l'alt-right, mais donc l'extrême droite américaine, qui ont eu la bonne idée d'aller chercher en fait des très vieux tweets de James Gunn puisqu'il avait pris des positions publiques contre Donald Trump et qui ne le supportait pas, et donc tout un tas une trentaine de tweets en fait qui étaient des blagues de très mauvais goût, ça on en a assurément, et en fait ils ont porté ça à l'attention en fait des réseaux sociaux, qui ont fait monter l'affaire
qui l'ont monté en sauce.
En sauce, merci. Et c'est arrivé aux oreilles donc de Alan Horn, le directeur de Disney, qui a dit excusez-nous, mais ça c'est pas du tout en accord avec nos valeurs. Donc va-t'en à James Gunn. Sauf que James Gunn, quand il avait été embauché pour faire les Gardiens de la Galaxie, c'était déjà publiquement excusé pour les tweets incriminés, pour ces blagues, parce qu'il avait déjà eu des remontrances par rapport aux propos qui étaient tenus dedans. Mais là, vu qu'il y avait des blagues en plus avec une sorte d'humour très 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 graveleux sur un peu...
Oui, sur la pédophilie.
Voilà, sur la pédophilie, faut dire le mot. En fait, vu que Cernovich et Posobiec sont aussi des gens qui adorent les théories du complot façon Pizzagate, qui voient un peu des pédophiles un petit peu partout, notamment dans les cercles démocrates, en fait, avaient commencé à sous-entendre que James Gunn était lui-même un pédophile. Ce qui est un raisonnement aussi absurde que de dire que Didier Super voterait Macron parce qu'il a écrit « Il y en a marre des pauvres », en gros. Voilà.
C'est une très bonne chute. C'est très bel exemple.
T'as vu ça ?
Très très bel exemple.
Mais donc, ouais, effectivement, il a été viré. Donc, il y a tous ses acteurs, toute sa famille d'acteurs et de collaborateurs qui ont dit, c'est pas possible parce que...
S'il s'en va, on s'en va aussi.
C'est ça, s'il s'en va, on s'en va aussi. Puis il n'est pas comme ça, il n'est pas ce que vous lui reprochez d'être. Et dans l'intervalle du temps, en fait...
Comme si jamais on avait dit à un humoriste, t'es antisémite parce que t'as fait
une blague sur le plus de Netanyahu.
Ça arrive jamais.
Non, mais ce qui a été très bien du coup pour Warner en face, c'est qu'ils ont vu que l'un des faiseurs d'or de Marvel Studios était disponible. Et même si Disney est revenu sur sa décision un petit peu plus tard, dans cet intervalle de temps, lui, il est allé rencontrer les pontes de Warner, qui lui ont proposé déjà à l'époque de faire un film Superman, mais il lui a préféré déjà ne pas faire Superman parce que le contexte précédent de ce qu'était l'homme d'acier chez Warner, c'était compliqué à utiliser, et surtout parce que d'abord il voulait se faire simplement des personnages qui lui convenaient mieux, donc aller chercher des parias, des outcasts, des gens des laissés pour compte, et aller chercher la rédemption et l'humanité qui sont en leur fort intérieur.
En l'occurrence The Suicide Squad.
Voilà.
Et Olivier Delcroix, est-ce que cet impact entre le monde politique et le cinéma est quelque chose qui est récurrent dans l'histoire des blockbusters?
Je pense que oui, ça a toujours été, et même si c'est nié le plus possible, il y a toujours eu une implication politique. On a toujours, et notamment sur Superman, par exemple, effectivement, quand l'Amérique va mal, elle cherche Superman, et effectivement, en 78, juste après la guerre du Vietnam, juste après tout ce qui se passe, le Watergate, enfin bref, la crise pétrolière. Tout va tellement mal, l'Amérique perd son leadership, donc à Hollywood, ils se disent il faut un petit peu redorer le blason des États-Unis, l'Amérique et sa bannière sont en danger, donc on fait un Superman, et ça marche. Hein,
donc c'est le thermomètre, quand il y a un Superman sur un grand écran,
c'est l'Amérique qui va pas bien. Aux États-Unis, c'est moyen. Oui. Et ce qui est amusant, c'est aussi, on a beau se dire que James Gunn n'est pas un cinéaste politique, lui-même d'ailleurs ne se revendique pas du tout comme ça, et pourtant il est quand même le fils d'un ancien politicien, donc avocat, James Francis Gunn, qui a été avocat comme ça un petit peu dans les années 60, dans la région de Saint-Louis, et on voit bien qu'il a vécu tout ça. En plus, il est un des six enfants, donc il a vécu tout ça. Et forcément,
son discours, sans être spécifiquement politique, l'est beaucoup au niveau social, même dans The Suicide Squad. On voit bien qu'il y a une critique de l'interventionnisme américain dans The Suicide Squad. On s'aperçoit aussi qu'il parle de la manipulation de l'opinion. Alors tout ça, évidemment, est camouflé dans une espèce de cadre humoristique un peu exagéré, mais c'est exactement ce qu'on voit aussi dans Superman. Mm-hmm. Toute cette critique des réseaux sociaux, la façon dont finalement Superman évolue dans un espèce de
oui, c'est de un milliardaire mégalomane qui fait quand même l'opinion publique. Hein, voilà, c'est-à-dire que alors la réalité, je pense que il y a beaucoup de gens qui ont dit il a fait un film politique ou un film woke. Je pense que c'est plutôt la réalité qui a rattrapé
parce que Lex Luthor, évidemment, alors tout le monde dit c'est la tarte à la crème. Oui, Lex Luthor, c'est Elon Musk, gna gna. Ben non, mais Lex Luthor, il existe aussi dans les comics.
Oui.
Il n'a pas attendu Elon Musk. Donc c'est une figure emblématique du patron de la tech ou du multimilliardaire des sociétés, des entreprises, etc.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens se rendent compte qu'on a des vrais super vilains dans le monde réel.
Oui, c'est ça, exactement. Marie Casabonne, est-ce que vous pensez que c'est à ce moment précis de cette affaire du renvoi de James Gunn de chez Disney que pour vous il y a une césure véritablement
Moi je pense que c'est quand même quelque chose, même s'il a eu beaucoup de soutien, notamment de ses acteurs, etc. Je pense que c'est quelque chose qui l'a évidemment marqué, mais comme ça marquerait, je pense, n'importe quelle personne. Et c'est vrai que le même si je pense qu'il en prenait déjà le chemin, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut nous faire dire, je vais rester plus, peut-être un peu plus dans le rang pour rester à ce poste-là. Parce que quand même, on l'a dit, c'est quelqu'un qui vient du Missouri, qui n'était pas du tout destiné à être quelqu'un à Hollywood, surtout aussi haut poste. Et à un moment, comme il était parti chez DC, que Marvel l'a rappelé, à un moment, il était vraiment aux deux postes à peu près en même temps, des deux plus gros studios hollywoodiens de super-héros. Enfin, c'est quand même quelque chose que pas grand monde n'espérait, surtout pour quelqu'un de cette origine-là. Donc oui, je pense que c'est même peut-être inconsciemment, c'est une invitation aussi à rentrer dans le rang et à profiter de cette position qu'il a acquise.
Il faut voir quand même que
Olivier Delcroix,
le grand principe même de George Lucas et de plein d'autres à Hollywood, c'est de penser en dehors de la boîte et think out of the box. Et je pense qu'en fait, sans même le vouloir, James Gunn pense en dehors de la boîte. En dehors de la boîte Disney, en dehors de la boîte Marvel, en dehors de la boîte hollywoodienne. C'est un type qui, sans le savoir, parce qu'il le respire, c'est comme ça, c'est dans son ADN, il pense en dehors de la boîte. Quand, par exemple, il injecte Crypto, le chien des années 50, dans son Superman, qu'il fait ?
Parce qu'il a lui-même un chien, voilà. Et il est passionné par les animaux.
Et qu'il a récupéré un chien qui s'appelle Ozu, dans une espèce de chenille à Los Angeles. Ce pauvre clébard était parmi 60 autres, etc. Il a mis des années avant de pouvoir le toucher, parce que ce chien lui a bouffé ses ordinateurs, ses chaussures, ses godasses, ses meubles, tout le monde, il les a mordus, etc. Il sait jamais... En fait, qu'est-ce qu'il fait avec Ozu ? Il fait la même chose. Il prend un outsider et il le ramène à l'humanité. Donc il prend un pauvre chien errant et il en fait un chien adorable. Et là, c'est ce qu'il fait aussi avec Crypto. Il reprend un personnage de marginal et il la colle à
il
cette espèce
de
figure.
Chemin. Non mais c'est ça, les Gardiens de la Galaxie, c'est que moi je veux bien le côté rebelle et tout, mais le truc final en fait des Gardiens de la Galaxie, c'est qu'ils sont adoubés en fait par les gens qui donnent les lois, qui régissent cet univers-là. Donc l'anarchie, elle est modérée, quoi, on va dire. Mais Kevin Feige a toujours fait ça, c'est-à-dire qu'il va chercher des gens qui ont des personnalités pour en saupoudrer ses films, qui sont par ailleurs très cadrés. Il faut savoir que par exemple dans un film Marvel, très souvent, c'est pas les cinéastes qui signent les scènes d'action. Ce sont faits par des équipes annexes, etc. Donc, je pense que tout ça est quand même tout de même à grandement modéré. Tu ne deviens pas chef d'un grand studio, surtout aujourd'hui, si tu rues un peu dans les brancards.
Je m'appelle Groot.
Le débat est lancé. Merci beaucoup. Merci Marie Casabonne. On rappelle votre excellent livre sorti il y a quelques mois dans les bureaux de The Office, L'humain derrière l'humour, aux éditions Ferd. Merci Julien, Arnaud, Olivier, Aurélien d'avoir évoqué James Gunn, et on laisse les spectateurs se faire une idée sur l'évolution de sa carrière. C'est la fin de cette émission, une émission réalisée par Étienne Bertin et préparée par Lisiane Larbani et Benjamin Ducy, avec l'aide de notre stagiaire Amazir Amadaïn Guest, et aujourd'hui à la technique, il y avait Loïc Frapsos et au mixage David Diboué Black. Comme toujours, pour le répondeur, le numéro c'est 01 56 40 30 20, et si vous voulez parler avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram, hashtag Fred Sigrist. On se retrouve demain pour un plateau exceptionnel autour d'un métier qui nous a toujours tenu à cœur à Blockbuster, les comédiens et comédiennes de doublage qui nous parleront de leur art demain à 17h.
Peacemaker. What a joke.
Et maintenant, c'est le mag de l'été avec Marie Misset. Bonsoir Marie.
Bonsoir Frédéric. Moi, je dis bonjour à cette heure-là. L'été, c'est encore le milieu de la journée.
Moi, c'est ma fin de journée, je dis bonsoir.
18h. Bonjour à tous. Culture toujours dans le mag de l'été. On se demande comment ça marche dans la tête d'un chroniqueur judiciaire confronté aux faits divers avec Jean-Pierre Darroussin, que vous aimez évidemment tous ici, hein, comme tout le monde.
Et... Enfin, il y en a un qui l'aime pas, mais je dirais pas qui.
Ouais, on ne dira rien. Il joue un journaliste fait divers dans Rapace. C'est un film qui est sorti la semaine dernière. Et puis il y aura aussi Élise Costa, chroniqueuse judiciaire elle-même, une rencontre au sommet. Et vous avez l'air d'aimer Rapace.
Ah,
vous avez
j'adore.
Ouais, c'est super, super, film. Super, super film.
Qui a été réalisé par un copain, Peter de Ronsis.
Ouais, ouais, non, mais vraiment, il faut aller voir Rapace. Oui. Hein, faut
mais on va le dire pendant une heure, c'est vraiment un polar très réussi.
À tout à l'heure.